Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur les héros de la foi dans Hébreux chapitre 11, à partir du verset 30. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées aux tourments et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent des moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre, tout cela à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Amen. Voilà le chapitre 11 des Hébreux que nous avons déjà médité à 2 reprises, nous parle d'une série de héros. Alors, on va faire une petite révision générale. Est-ce que vous vous rappelez des premiers héros de la foi ? Alors, le premier, Abel. Abel qui nous parle de la foi dans l'adoration. Il a adoré par la foi et il a plu à Dieu son sacrifice. Alors, après Abel, c'est Hénoc. La particularité d'Hénoc, c'est qu'il fut enlevé au ciel parce qu'il plut à Dieu. Et ça nous parle de l'enlèvement de l'Église qui viendra sur ce monde parce que le Seigneur revient chercher son Église. Ensuite, après Hénoc, Noé. Noé, ça nous parle de l'obéissance. De l'obéissance parce que Dieu lui a dit « tu vas construire un bateau ». Alors qu'il n'avait jamais construit de bateau, il a tout simplement obéi par la foi. Et puis, le quatrième, Abraham, qui est le père de la foi, qui lui a persévéré malgré l'obscurité dans l'incompréhension, eh bien, il a été jusqu'au bout en persévérant dans sa foi jusqu'à offrir son fils en sacrifice. Et puis, nous en avons vu encore 4 autres. Ça continue ? Isaac. Isaac, qui lui a été conduit par la foi à choisir la bonne personne quand il a prié, quand il a béni. En fait, il a béni Jacob à la place d'Ésaü. Ensuite, après Isaac, c'est Jacob. Jacob qui, lui, on pourrait dire, c'est celui qui a multiplié le peuple, parce que de Jacob sont issues les 12 tribus d'Israël. Il a eu 12 fils et 1 fille. Ça fait un petit moment que je n'ai pas eu de présentation d'enfant. Alors, je lance un appel encore ce matin. L'année n'est pas terminée. 12 fils et 1 fille. Vous voyez ? Extraordinaire, une famille comme ça. Je ne crois pas qu'à Toulouse-Ouest, on a encore une famille avec 13 enfants. Voilà, je le sème dans les cœurs. Peut-être que ça viendra un jour. Gloire à Dieu. 13 enfants. Après, donc, lui, c'est la multiplication par la foi. Après, donc, Jacob, Joseph qui, lui, a subi le rejet par la foi, rejeté par son père, par sa famille, ses frères, rejeté par Potiphar, rejeté dans la prison, mais par la foi, il a atteint l'objectif que Dieu lui avait fixé. Et puis, le dernier qu'on avait vu, Moïse, c'est les miracles par la foi. Eh bien, c'est un sans faute ce matin, vous avez tout retrouvé. Gloire à Dieu. Il faut faire travailler sa mémoire comme ça. Alors on continue après Moïse, qui a vu tellement de miracles et la main de Dieu, la mer s'ouvrir en deux, Dieu pourvoir avec la manne dans le désert. Il a vu l'eau du rocher sortir. Il a vu vraiment la main de Dieu dans ce périple de 40 ans. Nous arrivons à Josué. Alors c'est les murailles de Jéricho et ce texte se trouve dans Josué chapitre 6 et le verset 1. Alors on va le regarder ensemble, en tout cas une partie, puisque ça concerne tout le chapitre 6. Mais nous lirons juste les cinq premiers versets. Josué chapitre 6 verset 1. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats, faites le tour de la ville. Vous, tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris, alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. » Alors Josué, c'est donc le successeur de Moïse. D'abord, il faut savoir que Josué a commencé comme serviteur de Moïse, c'est-à-dire qu'il aidait Moïse dans toutes ses tâches. Et avant d'être placé à la tête du peuple, il a d'abord eu un parcours humble et caché. Et c'est ainsi encore aujourd'hui, même si vous êtes appelé à de grandes choses, il y a toujours un parcours humble et caché, on appelle ça la préparation. Et c'est dans la préparation, dans le secret, que Dieu nous prépare à la mission qu'il nous appelle. Donc Josué, pendant des années, on n'a pas trop entendu parler de lui, il était dans l'ombre de Moïse, il aidait Moïse dans ses tâches, il était comme un second, mais en réalité, Dieu avait pour lui une autre destinée, c'est que le jour où Moïse allait mourir, c'est Josué qui allait le remplacer. Alors les premiers temps ont été difficiles, et c'est ça qui est un petit peu perturbant, car après les 40 ans de désert, le peuple n'était pas tellement préparé au combat, il n'était pas un peuple vaillant guerrier, il n'était pas un peuple prêt pour la conquête, pour la guerre, ils étaient plutôt des nomades, ils allaient de campement en campement, ils démontaient leur tente, ils la remontaient un peu plus loin, mais pas un peuple de guerriers. Et à peine entré dans le pays, donc sous la conduite de Josué, le Jourdain s'ouvre, ils passent à sec. Le premier pas qu'ils font dans le pays, ils sont déjà face à une énorme difficulté, un des plus gros défis à surmonter, c'est la ville de Jéricho. La Bible dit que la ville de Jéricho était une ville imprenable avec des tours, avec une muraille. On sait d'après l'archéologie que la muraille faisait pratiquement 3,50 m d'épaisseur, donc c'était des gros murs qu'on ne pouvait pas faire tomber comme cela. Le texte dit que la ville, au verset 1, était fermée et barricadée. Le texte dit que personne ne pouvait entrer et sortir. Voilà, Josué arrive plein de foi, plein des promesses de Dieu, et la première chose qu'il voit, c'est une impossibilité. Comment va-t-on faire? C'est trop dur. Est-ce que c'est bien la volonté de Dieu? Est-ce que c'était bien la volonté de Dieu malgré la difficulté? Et c'est là où on voit que ceux qui n'ont pas la foi ou qui ne s'attendent pas aux promesses de Dieu vont flancher à ce moment-là. Josué, lui, se nourrit des promesses de Dieu, de la foi. C'est comme ça qu'il va recevoir la parole de Dieu. Mais les premiers temps sont difficiles. Cela atteint la foi du peuple. À peine sorti d'Égypte, d'ailleurs, le peuple doutait. Et il disait, mais Moïse, comment allons-nous survivre dans le désert? Là-bas, en Égypte, nous avions à manger, il y avait des melons, il y avait des poireaux, il y avait toutes sortes de nourriture. Ici, il n'y a rien à manger. Et il commençait à dire, c'est trop difficile. Est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu? Est-ce que la volonté de Dieu, ce n'est pas plutôt que nous retournions en Égypte? Et frères et sœurs, quand c'est difficile, parfois nous remettons en question la volonté de Dieu. Et nous disons, si c'était la volonté de Dieu, ça serait plus facile. Mais je remarque que, dans la parole de Dieu, la volonté de Dieu est parfois difficile. Il y a des obstacles. il y a des Jéricho, il y a des mers à franchir, il y a des ennemis qui se dressent. Donc il y a quand même un combat à mener. Alors dans Nombre, chapitre 11 et au verset 4, vous voyez, la difficulté décourage le peuple. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger ?» Le ramassis de gens. Il y avait là, au milieu du peuple d'Israël, des gens qui critiquaient, des gens qui doutaient. C'est un ramassis de gens, des gens qui étaient bien au milieu du peuple d'Israël, mais qui n'étaient pas dans la pensée de Dieu et qui commençaient à parler en disant « Mais Dieu ne pourvoira pas. Si c'était la volonté de Dieu, ce ne serait pas si difficile. Mieux vaut retourner en Égypte. » Et si vous regardez dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens 3, verset 3, vous retrouvez la même chose. C'est-à-dire que Paul dit que dans l'église de Corinthe, il y avait aussi un ramassis qui était là, un ramassis de personnes qui contaminaient les chrétiens spirituels. Alors Paul les appelle les chrétiens charnels. 1 Corinthiens 3, 3. « En effet, et Paul parle à l'église de Corinthe, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas encore charnels, ne marchez-vous pas selon l'homme ?» Voilà encore des personnes qui sont dans le peuple, dans l'église, mais qui marchent selon la chair, c'est-à-dire qui sont jaloux, c'est-à-dire qui voient le mal, qui condamnent, qui critiquent un petit peu comme ce ramassis. Ils sont jaloux du succès des autres. Mais si vous êtes jaloux du succès des autres, c'est un problème parce que c'est que vous marchez selon la chair. Si Dieu bénit, si Dieu donne, si Dieu accorde sa grâce, eh bien merci Seigneur, soyons encourageants, soyons de ceux qui bénissent, mais ne tombons pas dans ce piège d'être des chrétiens charnels avec des jalousies, avec des disputes, avec de la haine, des tensions, des critiques, devenir amer. Tout cela, Paul dit, eh bien ce sont des chrétiens charnels. Alors Dieu voit aussi les difficultés, mais il donne tout de suite la solution, c'est au verset 2. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. » Alors là, se pose une question, parce que regardez le temps du verbe. Je vous pose la question, à quel temps est le verbe « Vois, je livre » C'est au présent. C'est au présent. C'est-à-dire que Dieu dit, « Je te la donne, prends-la, la ville est pour toi. » Et Dieu parle au présent. Pourquoi est-ce qu'il parle au présent? Parce que Dieu parle d'une chose, comme des choses qui ne sont pas encore, comme si elles étaient déjà. Et ça, c'est un petit peu perturbant pour nous, parce que Dieu dit au peuple, je te la livre. Mais en réalité, si vous regardez avec vos yeux, vous voyez toujours les murailles. Et vous avez juste une parole. Vous avez juste une parole. Mais regardez comment Dieu procède. Parce que Dieu est capable de dire au présent des choses à venir. Il l'a fait pour Abraham. Abraham, le jour où il l'a appelé à quitter Charan, il lui a donné une parole. Il lui a dit, « Je ferai de toi une multitude de nations. » Ça, c'est quel temps, ça? Futur. Ça, c'est logique. Et ça, ça colle bien avec notre raisonnement. « Je ferai de toi », c'est-à-dire dans l'avenir. Alors on comprend bien comment Dieu parle. Un jour, je ferai de toi une grande nation, c'est dans le futur. Eh bien ça, ça correspond parfaitement à notre manière de penser. Mais un petit peu plus loin, le jour où Dieu donne le nom d'Abraham à Abraham, et il lui dit, je te rends père d'une multitude de nations. C'est à quel temps ça? Présent. Et pourtant, Abraham n'a pas encore Isaac. Et Dieu lui dit, je te rends maintenant, je te rends père d'une multitude de nations. Il n'a pas Isaac, Jacob, derrière Jacob, les 12 tribus d'Israël, il y a tout ça qui vient derrière. Au présent. Donc Dieu le dit au futur, Dieu le dit au présent, et si vous lisez dans Romains, Paul reprend la promesse qui est donnée à Abraham avant la naissance d'Isaac, et dans la bouche de Dieu, Paul dit que Dieu déclare, je t'ai établi père d'une multitude de nations. Et à ce moment-là, c'est quel temps? Passé. Et Isaac n'est pas encore né. Dans tous les cas, Dieu a raison. Que ce soit futur, que ce soit présent, que ce soit c'est déjà fait, je t'ai déjà établi père d'une multitude de nations. Que ça soit passé, pour Dieu, en fait, il n'y a qu'un seul temps, c'est le temps de Dieu, qui contient le passé, le présent et le futur. C'est pourquoi quand Dieu dit, il pourrait très bien dire, je te livrerai Jéricho, ça serait juste. Mais s'il dit, je te livre Jéricho, c'est juste aussi. Et il aurait pu même dire, voici, je t'ai livré Jéricho. C'est quelque chose de fait. Pourquoi ? Parce que si c'est fait pour Dieu, ça se fera dans la réalité immanquablement. Et Dieu peut le dire déjà. Dieu peut le dire, je t'ai livré Jéricho, tu n'as plus qu'à aller par la foi. Donc nous voyons bien que le temps de Dieu est différent du nôtre et que la logique de Dieu est différente de la nôtre. Alors n'essayez pas de comprendre la logique de Dieu avec vos neurones. Nos neurones sont capables de comprendre les choses matérielles, terrestres. Alors on peut faire les mathématiques, 1 plus 1 égale 2. Vous êtes d'accord ? Mais pour Dieu, 1 plus 1 plus 1 égale 1. Vous connaissez ça ? C'est la Trinité. 1, le Père, 2, le Fils, 3, le Saint-Esprit, ça fait toujours 1. La logique de Dieu n'est pas sur notre logique terrestre. Alors, merci Seigneur pour l'intelligence, merci pour les neurones, mais ce n'est pas avec les 100 milliards de neurones que nous pouvons comprendre la pensée de Dieu, parce qu'elle n'est pas dans notre logique. C'est par la foi. Et Jésus dit même le contraire, il dit, mais si vous aviez de la foi comme des enfants, vous pourriez entrer dans le royaume de Dieu. Et il dit, Père, je te loue, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents qui ont beaucoup cette réflexion, et gloire à Dieu pour l'intelligence humaine. Et c'est une bonne chose. Mais il dit, mais je l'ai révélé aux enfants, à ceux qui ont un cœur simple, qui sont dans la foi, qui reçoivent simplement les paroles de Dieu. Nos pensées naturelles sont opposées à la parole de Dieu. Vous voyez ce texte ? Quand Dieu dit à Josué, « Vois, je livre Jéricho entre tes mains », mais Josué, il voit bien la ville, il voit bien les murailles, et il peut dire, « Mais Dieu, tu me dis que tu me livres, mais je ne l'ai toujours pas. » Ça, c'est le raisonnement. Mais pour Dieu, c'est fait. Je crois que la parole de Dieu, c'est un petit peu comme une semence. Quand l'agriculteur, il sème sa semence, que ce soit des poireaux, des tomates, n'importe quelle semence, du potiron, en fait, il ne se passe rien. Il a semé quelque chose dans la terre. En apparence, il ne se passe rien, mais déjà, c'est en train de prendre racine, c'est déjà en train de germer sous la terre, et un jour, ça va monter à la surface. La parole de Dieu, c'est une semence. Et quand Dieu dit « Je te livre », il est en train de semer une semence dans le cœur de Josué pour dire « Ça va se faire ». Est-ce que tu le crois ? Est-ce que tu fais confiance à ma parole ? Est-ce que tu crois mes promesses ? Ça va se faire, c'est une semence. Alors, en réalité, Josué peut regarder avec ses yeux, il ne voit rien, mais dans son cœur, il y a déjà la parole de Dieu qui prend place. Ça, c'est important, frères et sœurs. Si la parole de Dieu ne prend pas place dans nos cœurs, nous ne le verrons pas s'accomplir. C'est Jésus qui le dit. Tout ce que vous croyez, vous le verrez s'accomplir. Mais il faut déjà que ça prenne place dans notre cœur, comme Josué l'a reçu de Dieu, et Dieu lui donne le plan, alors on l'a lu, c'est les versets 2 et suivants, vous allez pendant 6 jours, une fois par jour, vous faites le tour de la ville, vous sonnez des trompettes, et puis le 7e jour, c'est le bouquet final. 7 fois le tour, vous sonnez des trompettes et vous poussez des cris. Bon, le plan est assez simple, finalement, on peut le réaliser sans trop de difficultés, il suffit juste de convaincre le peuple de passer à l'action. Et c'est ce que Josué a fait, il a expliqué le plan de Dieu. Je me suis posé la question et je me suis dit, mais finalement, est-ce que Dieu a vraiment besoin que le peuple fasse le tour de la ville et sonne des trompettes ? Est-ce que Dieu a vraiment besoin de ça pour faire tomber les murailles ? Même pas. Il n'a même pas besoin des 6 jours et du 7e jour, en réalité. Et vous voyez comment Dieu procède ? Il pourrait le faire. Il pourrait le faire tout de suite, mais il veut rendre le peuple participant à la vie, à la bénédiction. Il veut. C'est-à-dire, il peut le faire sans nous, mais il veut le faire avec nous. Et il aurait pu le faire sans le peuple, c'était facile. Dieu aurait dit un mot, les murailles se seraient effondrées toutes seules. Mais remarquez l'épreuve quand même, parce qu'il met le peuple un peu dans l'embarras, je ne sais pas si vous, ce que vous pensez, mais déjà, une journée, c'est très long, vous faites le tour, une journée, il ne se passe rien. C'est embarrassant, même pour Josué. Deuxième jour, il ne se passe rien. Vous faites le tour, il ne se passe rien. Troisième jour, vous faites le tour, il ne se passe rien. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de, que ça ne sert à rien ce que vous faites? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est inutile? Ça fait 5 fois qu'on fait le tour, il n'y a même pas de fissure dans la muraille, il n'y a rien qui bouge. C'est décourageant. Le 6e jour, c'est pareil. Vous ne voyez rien avec vos yeux. Naturellement, les premières pensées, c'est « ça ne marche pas ». Et puis, vous faites 7 fois le tour, le dernier. Même 7 fois, le 7e fois que vous faites le tour, il ne se passe rien. Vous sonnez des trompettes, il ne se passe rien. Et c'est à partir du moment où ils ont obéi jusqu'au bout. C'est-à-dire, Dieu avait dit « vous pousserez des grands cris ». Et c'est après les grands cris seulement que Dieu a agi pour que les murailles s'effondrent. Imaginez que le peuple ait reculé avant d'arriver jusque-là, qu'il n'ait pas abouti dans sa démarche de foi, qu'il ait renoncé au septième jour d'avoir fait 7 fois le tour. On a fait ce que tu as dit, Seigneur. On a sonné les trompettes. Et puis qu'il s'arrête là. Il manquait encore un élément. Et voyez, frères et sœurs, il nous faut obéir jusqu'au bout. Et Dieu agit souvent au dernier moment, alors que tout semble perdu. Et même, je dirais, 2 minutes avant le cri, il n'y avait absolument rien qui avait changé. Il n'y avait rien qui pouvait encourager le peuple et dire « c'est bon, Dieu va agir ». Rien.
Humainement parlant, ils étaient dans l'obscurité. C'était leur part, c'était d'obéir par la foi. Et attention, attention aux paroles de découragement, frères et sœurs, parce qu'il y a toujours, des personnes qui ont le don de voir ce qui ne va pas. J'appelle ça le don du découragement. Mais j'ai cherché dans la Bible, je n'ai pas trouvé le don du découragement. J'ai regardé, j'ai vu « encouragez-vous les uns les autres, exhortez-vous les uns les autres, édifiez-vous les uns les autres », mais dans les paroles de Paul, je ne vois pas « découragez-vous les uns les autres, critiquez-vous les uns les autres, faites-vous du mal les uns aux autres, voyez tout ce qui va mal partout », je ne vois pas ça. Donc c'est à nous de changer notre attitude, notre réflexion, qui est mal orientée, pour l'orienter selon la parole de Dieu, donc d'être encourageant. Et quand ils ont poussé des cris, le miracle s'est produit. Alors, frères et sœurs, attendons-nous au miracle, obéissons à la parole de Dieu jusqu'au bout et dans la foi, le miracle se produit. Il y a des années de cela, c'était en 1961, à Berlin, ils ont construit ce grand mur pour séparer Berlin au est de Berlin au ouest. C'est les communistes qui voulaient conserver dans la partie des Russes cette zone pour pas qu'ils s'échappent et empêcher aussi ceux d'Occident de venir. Et ils ont fait un mur. Et ce mur a duré des années, des années, des années. Des années jusqu'à ce que, à un moment donné, il y a eu un tournant. Il y a eu un tournant et ça s'est passé le 9 novembre 1989. Le mur a été fissuré, le mur a été abattu. Alors, vous l'auriez vu la veille, ou une semaine avant, c'était toujours le même mur. Il était toujours imposant et il vous disait « vous ne pourrez jamais passer de l'autre côté ». Mais du jour au lendemain, ce mur s'est effondré. Il y a eu des gens qui ont prié, il y a eu la foi, il y a eu beaucoup de manifestations qui ont eu lieu, et le mur est tombé. Ça paraissait impossible, mais à Dieu, tout est possible. Aujourd'hui, il y a la liberté, les gens peuvent passer. Il n'y a plus ce mur à Berlin qui était comme une cicatrice dans cette ville, tout est terminé. Mais à l'époque, ce mur paraissait insurmontable, impossible à faire tomber. Et si on vous avait dit une semaine avant, vous verrez dans une semaine, ce mur n'existera plus, vous ne l'auriez pas cru parce que ce mur vous parlait et vous disait, je serai toujours là. C'est les murailles de Jéricho. Les murailles de Jéricho vous disent, nous ne tomberons pas. Mais Dieu a dit, elles tomberont. Et le jour où Dieu l'a décidé, elles tomberont. Nous devons juste le faire par la foi. Je passe à la deuxième personne que nous avons vue, dans les héros de la foi, c'est Rahab. On en a parlé au verset 31. C'est dans Josué chapitre 2 et le verset 1, Rahab qui a sauvé les 2 espions. Josué 2, 1. Josué, fils de Noun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en disant « Allez examiner le pays et en particulier Jéricho ». Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab. Et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho « Voici, des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi et qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. »
La femme prit les deux hommes et les cacha, et elle dit, « Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. » Et comme la porte dut se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. « J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. » Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on referma la porte après qu'ils furent sortis. Rahab prend un risque important en accueillant chez elle ces hommes parce que ce sont des ennemis du peuple de Dieu. Et elle aurait pu mourir à cause de cela. Mais Dieu a veillé sur elle. Et voyez, ça nous fait penser que Dieu prévoit même des personnes qui sont des ennemis du peuple de Dieu pour bénir le peuple de Dieu, pour vous permettre de vous en sortir, d'arriver à bon port. Il met dans leur cœur les pensées, il fait changer leur disposition d'état d'esprit, ce qui fait que ces hommes vont être protégés par une femme qui était à l'origine un ennemi du peuple de Dieu. C'est Dieu qui tourne les événements en notre faveur. Et Rahab, maintenant, a compris qui sont ces hommes. Elle sait que ce sont des gens du peuple de Dieu. Et elle sait que c'est le peuple de Dieu qui gagnera. Elle l'a compris. Dieu lui a révélé. Alors Dieu mettra sur votre route des personnes qui vont vous aider, des personnes que vous ne connaissez pas. Cette femme, en fait, elle ne connaissait pas les espions. Les espions ne la connaissaient pas, mais Dieu les a connectés. Vous ne connaissez pas certaines personnes, mais certaines personnes vont vous aider. Psaume 138, verset 8. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté durera toujours. N'abandonne pas l'œuvre de tes mains. L'Éternel agira en ma faveur. Il utilisera une femme, un homme, une personne pour vous aider, pour vous sortir d'une situation compliquée. Cette femme a sauvé sa vie et la vie de sa famille tout simplement en obéissant à la parole de Dieu. Cette femme a compris que les Israélites étaient le plan de Dieu et le choix de Dieu pour ce pays de Canaan. Et elle a fait confiance à Dieu pour les aider. Il y a toujours des promesses qui sont faites, même pour des païens. Rappelez-vous dans le Nouveau Testament, Corneille. Corneille, c'était un centurion de la cohorte italienne, donc un païen. Eh bien, Dieu s'est révélé à lui pour qu'il aille voir Pierre. Et c'est en allant voir Pierre qu'il a reçu chez lui, qu'il a été sauvé. Mais pourtant, c'était un païen. Ça veut dire que Dieu aime tous les êtres humains et il veut les sauver. Et il se révèle d'une manière ou d'une autre. Rahab nous parle de la grâce de Dieu. Rahab était une païenne. Rahab était extérieure au peuple de Dieu. Mais ça nous montre que même dans le peuple de Jéricho, cette femme pouvait être sauvée. Et ça nous parle de la grâce de Dieu parce que Dieu veut faire grâce à tous. Dieu ne veut pas sauver que ceux qui sont là rassemblés dans les églises. Dieu veut sauver le monde entier. Les Rahab, il y en a partout. Ce sont des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Ce sont des personnes qui n'ont pas entendu parler de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus a bâti son église afin que nous soyons des témoins dans ce monde et que nous fassions connaître l'Évangile. Alors vous trouvez dans le Nouveau Testament cette femme qui était cananéenne, qui était aussi extérieure au peuple de Dieu et qui vient voir Jésus. La première réaction des disciples, c'est « Seigneur, fais la terre ! Fais la terre ! Elle n'est pas du peuple de Dieu ! Fais la terre ! Elle crie derrière nous pour sa fille qui est possédée d'un esprit malin. » Et effectivement, Jésus ne donne pas suite. C'est assez perturbant. Jésus ne répond pas à cette femme. Et pourtant, Jésus, c'est la grâce incarnée. Pourquoi est-ce qu'il ne répond pas ? Il va la pousser jusqu'au bout de sa foi. Et cette femme persévère. Et Jésus lui donne une parole qui aurait pu la décourager. Il lui dit, mais je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Toi, tu n'es pas dans les brebis perdues d'Israël, toi, tu es cananéenne. Cette parole aurait pu l'arrêter. Et elle dit, mais Seigneur, même les petits chiens y mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Et par cette parole, elle voulait dire que même si j'ai quelques miettes de cette bénédiction pour Israël, oui, il est venu pour Israël, le Messie, mais il y a quelques miettes qui vont tomber et moi, je veux saisir ces miettes-là. Et je les prends pour moi. Et elle a eu cette foi qui s'approprie, elle a eu cette foi audacieuse qui a obtenu le miracle. Et c'est une des deux personnes dans le Nouveau Testament où Jésus dit « Ta foi est grande ». Il n'y en a que deux, le centurion romain et cette femme cananéenne où Jésus dit « Je n'ai pas trouvé en Israël une aussi grande foi ».
Il n'y a que deux personnes. Cette femme en fait partie. Les deux espions vont lui donner un signe très important. Ah, le signe, il n'y a pas de hasard. Comment la reconnaître quand les murailles vont s'écrouler? Alors, les deux espions lui disent, tu mettras un cordon à ta fenêtre et un cordon cramoisi, c'est-à-dire rouge cramoisi, de la couleur du sang. Et il n'y a pas de hasard dans la parole de Dieu. Cette couleur du sang, ça nous parle du sang de Jésus qui viendra un jour pour effacer nos péchés. Il y avait déjà la couleur du sang. On va dire cette corde rouge marquait que cette maison était couverte par le sang déjà. Et ça, c'était très important parce que dans l'Ancien Testament, on était pardonné, racheté par le sang des animaux. Et ce cordon représentait le sang. Et non seulement le sang des animaux, mais plus loin, le sang de Jésus, parce que vous pouvez chercher dans toutes les religions, que ce soit dans le yoga, que ce soit dans le bouddhisme, beaucoup cherchent la paix aujourd'hui. Mais pour le pardon des péchés, vous ne pouvez pas le trouver dans une religion. Le pardon des péchés, c'est à la croix, quand vous croyez en Jésus-Christ, comme votre sauveur. Le sang qui a été versé, c'est celui de Jésus. Et le jour de la destruction, seuls Rahab et sa famille furent sauvés. Pourquoi ? Parce que ce sont les seuls qui ont cru, ce sont les seuls qui ont fait confiance, ce sont les seuls qui avaient le cordon rouge, le fil cramoisi, et c'est les seuls qui ont bénéficié de la grâce de Dieu. Une petite conclusion sur Rahab, elle fait partie parce qu'elle a été intégrée au peuple de Dieu d'une manière merveilleuse. Donc elle a renoncé à sa vie de prostituée, elle s'est mariée et elle fait partie de la généalogie qui a abouti à Jésus-Christ. Elle a été donc intégrée dans le plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Son geste a été honoré par Dieu. Je termine avec une série de héros qui sont mentionnés à la fin du chapitre 11. On les a balayé tous ces noms. Il y a d'abord Gédéon, à partir du verset 32. Gédéon qui a combattu un peuple nombreux par la foi, parce qu'il était parti avec 30 000 hommes et il se sentait fort. Mais Dieu lui a dit, le peuple est trop nombreux, il pourrait en tirer gloire. Tous ceux qui ont peur rentrent à la maison. Il se retrouve avec seulement 10 000. 10 000 qui restent. Dieu dit, le peuple est encore trop nombreux. Fais encore un triage entre ceux qui boivent en lapant comme les chiens, et ceux qui plongent la tête dans l'eau, encore un triage. Il n'en reste plus que 300 qui restent. De 32 000, ils sont passés à 300, ce qui fait une réduction de 99%. 99% des effectifs. Dieu a dit, c'est avec ces 300 que tu combattras le peuple nombreux, par la foi. Ensuite, vous avez Barak dans la liste. Barak, il est connu, lui, pour avoir assisté Déborah. C'était Déborah, le juge. Déborah, c'est l'héroïne, en réalité. C'était elle qui était juge en Israël, et Barak, c'était le chef des armées. Et à ce moment, Barak a dit à Déborah, « Si tu ne viens pas avec nous, je n'irai pas au combat. » Et c'est Déborah qui a fortifié la foi de Barak et qui lui a donné la ressource pour aller au combat. Et béni soit le Seigneur pour les sœurs qui fortifient la foi des autres par des paroles, par des prières, par des décisions. Déborah, c'est une figure magnifique de l'Ancien Testament, une femme remarquable, une femme qui a été utilisée par Dieu et qui a été une figure de l'Ancien Testament. La foi de Samson. Alors Samson, c'est un cas particulier, Samson, parce que c'était un juge mais désobéissant. Samson, il péchait toujours avec les femmes. Il voyait une femme, il avait des sentiments, il tombait amoureux, il péchait. Il en voyait une autre, il péchait. Trois femmes se sont succédées dans sa vie et jamais il a trouvé le bonheur et la paix. Et c'est d'ailleurs la dernière femme qu'il avait eue qui a été pour lui une occasion de chute, Delila, qui a trouvé le moyen de sa force qui était dans ses cheveux, qu'il a rasé donc. Il a perdu sa force. Alors on connaît le déclin de Samson, mais par la foi, et lorsqu'il s'est repenti, alors qu'il tournait la meule dans la prison, ses cheveux ont repoussé, il a demandé pardon à Dieu, et par la foi, il est ressorti de la prison. Un jour où il y avait une festivité dans un temple de Dagon, eh bien il a mis ses deux mains sur les poteaux principaux du temple, il les a écartés et le temple s'est effondré. 3000 Philistins ont été détruits ce jour-là, des ennemis du peuple de Dieu. La foi, donc la repentance, a permis ce dernier succès. Il est question de Jephté. Alors Jephté, sa particularité, c'était qu'il était le fils d'une prostituée. Et à l'époque, c'était vraiment une honte. Et il était méprisé et il a été rejeté du peuple d'Israël à cause de cela. Mais quand il y a eu des combats et des difficultés, ils sont allés le rechercher pour dire « Reviens avec nous, Jephté, nous avons besoin de ton aide. » Et par la foi, il a combattu les ennemis d'Israël et ils ont remporté une grande victoire. C'est un homme de foi remarquable, il a remporté des victoires, mais j'attire votre attention sur Jephté parce qu'il a fait un vœu insensé. Il a fait un vœu insensé. Il a dit que si le Seigneur me donne la victoire, que la première personne qui sorte du village quand je rentrerai, eh bien, je l'offre à Dieu en holocauste. C'est un vœu insensé. C'est un homme qui avait la foi, mais qui a été capable de faire des vœux insensés. Et c'est ce qui s'est passé. En réalité, c'est sa fille qui est sortie la première pour accueillir son père en héros. Et il a accompli malheureusement le vœu qu'il avait fait. Mais ceci pour vous montrer qu'on peut avoir la foi, mais on ne reste qu'un homme. Et il ne faut pas suivre un homme, il faut suivre Dieu. Et ce que cet homme avait décidé était mauvais. Et là, il ne fallait pas le suivre. Il ne fallait pas le suivre. Même s'il avait eu la foi sur d'autres paramètres, en tout cas, son vœu était mauvais et ça fait que sa propre fille a été tuée. David, bien sûr, David avec ses exploits déjà sur le lion et sur l'ours, David qui a combattu le géant Goliath, qui était à la tête des armées de Saül, il nous montre le combat spirituel dans la foi. Et puis Samuel qui est encore enfant, entend la voix de Dieu dans le temple. Alors, c'est intéressant Samuel, sa foi, parce que c'est une foi dans un contexte de dégradation spirituelle. Le sacrificateur lui-même laissait ses propres fils avoir des relations avec les femmes. Il laissait faire. Et Samuel voyait que ce n'était pas la volonté de Dieu. Il a lutté contre cette morale mauvaise qui était là dans le peuple. Il a redressé les choses quand Élie est mort. Il a repris les choses en main et il a remis le peuple sur les voies droites. D'autres sont mentionnés comme ceux qui ont été rejetés, sciés, ça c'est Ésaïe, Étienne qui a été lapidé, dont il est question dans le texte. Eux dont le monde n'était pas digne, ils ont bien porté la parole de Dieu, mais parfois ils sont morts dans la foi. Ils sont morts à cause de leur foi. Nous pensons aux pays persécutés encore aujourd'hui, qui payent le prix de l'évangile. À cause de leur foi, ils sont parfois tués. On va prier un instant. On a vu cette succession de héros qui pour nous sont comme des modèles. Mais peut-être ce matin, vous êtes comme devant une muraille, comme devant ce Jéricho qui est imprenable. Mais ce matin, nous voulons rappeler qu'il y a encore des territoires à conquérir. Il y a encore des bénédictions en réserve. Mais il y a aussi encore des murailles qui vont se dresser devant nous. Il y a encore des géants qui vont apparaître. Il y a encore des personnes perdues qui sont à sauver, comme Rahab. Nous aurons toujours besoin de la foi qui nous permet d'avancer. Parce que le combat dans lequel nous sommes n'est pas humain. Tous ces modèles nous apprennent comment nous confier dans les promesses de Dieu. Comme Josué, vous devrez croire alors que la muraille est là devant vos yeux. Comme Rahab, vous devrez croire pour être sauvé de la destruction de la ville. Seuls ceux qui ont la foi seront sauvés. Comme les héros de la foi que nous avons mentionnés, vous devez croire que Dieu agira en votre faveur. Merci pour ta parole, merci pour ces modèles, merci pour ces exemples de foi qui nous ont précédés. Et nous te prions, Seigneur, de poser ta main sur chacun de nous, afin, Seigneur, de ne pas chanceler, afin de ne pas douter, afin de ne pas reculer devant les géants, devant ces murailles d'impossibilité, devant ces mers qui nous bloquent le passage, devant ces impossibilités qui se dressent contre nous, devant ces ennemis nombreux qui nous font la guerre. Seigneur, nous voulons nous tourner vers toi plein de foi ce matin. Et comme le peuple a su pousser des cris, nous voulons aussi pousser des cris de louange et de victoire à ta gloire en disant « Oui, Seigneur, tu es puissant. Oui, tu es digne pour transformer les situations. Oui, tu es glorieux, Seigneur, pour nous arracher aux griffes des lions, à la gueule des lions, Seigneur. Tu es tout puissant pour accomplir ta parole. Je te prie de bénir celui qui est en lutte, en combat, peut-être avec un collègue de travail, peut-être dans son voisinage, peut-être dans son appartement ou dans sa maison, il y a toutes sortes d'oppositions, de tensions. Et nous te prions, Seigneur, de te glorifier dans toutes les situations pour la seule gloire de ton nom. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.